Voici Nathalie Normando.
11h pile, monsieur le ministre Christian Dubé qui se fait attendre. S'il est discipliné, parce qu'il nous habitue à une certaine discipline, le ministre de la Santé, le point de presse devrait commencer dans quelques instants. Soyez à l'affût, hein, je vais vous demander vos réactions parce que on s'attend à ce que le ministre précise son plan de match, son plan de contingence, comme on l'appelle, comme on le désigne dans le jargon administratif, pour tenter de minimiser les impacts sur les bris de service qui sont anticipés. Parce qu'on parle de bris de service dans les hôpitaux, dans les CHSLD, mais c'est tout le réseau de la santé et des services sociaux qui est impacté. Alors, on écoute le ministre à l'instant. Il arrive, oui.
Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse concernant la vaccination obligatoire du personnel du réseau de la santé. Mon nom est Marjorie Côté-Boileau, attachée de presse du ministre Christian Dubé. Alors, le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, est aujourd'hui accompagné de la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques, la docteure Lucie O'Patterney. Et par la suite, nous répondrons aux questions des médias. Alors, sans plus tarder.
Merci beaucoup, Marjorie. Bonjour tout le monde. Et merci, docteur O'Patterney, d'être avec moi cet après-midi. Alors, aujourd'hui, à deux jours de la date butoir du 15 octobre, là, je veux faire le point sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. D'abord, je veux souligner qu'on a augmenté la vaccination de 5 % depuis la commission parlementaire qui a eu lieu à la fin août. Et on a atteint un taux de vaccination de 96 % pour ce qu'on appelle la première dose du réseau public. J'ai eu plusieurs présentations et plusieurs versions de plans de contingence que si on appliquait le retrait des 22 000 employés qui ne sont pas pleinement vaccinés le 15 octobre, comme la recommandation qu'on avait de la santé publique, nous avons regardé plusieurs scénarios. Je peux vous dire qu'on en a regardé plusieurs jusqu'à très tard hier. Ça fait de nombreuses semaines qu'on parle à nos PDG, qu'on leur demande de retourner toutes les pierres, qu'on essaie de trouver des voies de passage, qu'on analyse différentes solutions, pardon, pour minimiser l'impact, parce que principalement, ce qu'on veut minimiser, c'est l'impact sur le service aux citoyens. Quand on additionne le départ potentiel des non-vaccinés au personnel qui est déjà manquant, on en a parlé souvent, on se retrouve ajouter une pression qui est beaucoup trop forte sur notre réseau. Et surtout sur les travailleurs de la santé qui sont vaccinés, puis en fait qui sont au front depuis plusieurs mois. Et je crois que si on continue comme ça, on va foncer dans un mur. Et comme ministre de la Santé, avec mon équipe, j'ai la responsabilité de protéger le réseau de la santé de tous les Québécois mais aussi de protéger notre réseau. Et là, le risque en ce moment, il est trop élevé. Et ça serait irresponsable de jouer au dé avec la santé des Québécois. Alors, j'ai donc décidé de reporter l'échéancier de 30 jours, soit au 15 novembre. D'ici là, j'espère que l'interdiction de pratique des ordres de professionnels qu'on a reçus récemment va faire réfléchir les non-vaccinés. On met énormément d'efforts aussi pour recruter plus d'infirmières puis d'autres professionnels pour stabiliser notre réseau. On va aussi exiger que les travailleurs qui sont non-vaccinés du réseau public soient testés au minimum 3 fois par semaine à compter de lundi, autant au public qu'au privé. Et nous avons aussi pris la décision qu'on ne versera pas les primes COVID, 4 et 8 % et la prime de 15 000 $ aux travailleurs non vaccinés. Ils toucheront leur prime seulement s'ils se font doublement vacciner au cours des 30 prochains jours. Tous les travailleurs nouvellement recrutés dans notre réseau à compter des prochains jours devront aussi être adéquatement vaccinés. Et on va demander la même chose pour le secteur privé. Pour ce qui est des personnes vulnérables, particulièrement en CHSLD ou RPA ou dans les ressources intermédiaires, on est en train de leur donner une troisième dose, comme vous savez. On espère aussi vacciner les enfants de 5 à 11 ans dans les prochaines semaines. Avec tous ces critères-là, nous avons pris la décision difficile hier soir de reporter la mise en application du décret dans le réseau de santé au 15 novembre. On veut, entre autres, donner, et ça c'est important, on veut donner une dernière chance aux non-vaccinés, un temps supplémentaire pour se faire vacciner à la lumière des informations qu'on a eues cette semaine. Et je vous dirais, je le répète, cette décision a été prise après plusieurs longues rencontres et de nombreuses visites dans nos installations où j'ai consulté énormément de gens sur le terrain, qui travaillent sur le terrain, reconnaître leurs conditions difficiles en ce moment et les écouter. Et je le répète, les différents scénarios qu'on nous a montrés étaient trop lourds de conséquences pour notre réseau. On pourra en parler avec le docteur O'Patterney tout à l'heure. Je vais vous le dire, je le dis souvent, il faut être honnête, il n'y en a pas de solution parfaite. Mais je sais que cette décision peut paraître très frustrante pour les travailleurs de la santé qui sont déjà vaccinés. Je l'ai entendu. Elle peut paraître aussi frustrante, choquante pour les utilisateurs du réseau qui veulent un environnement sécuritaire. Mais elle peut paraître aussi difficile pour tous les Québécois qui se sont fait vacciner et qui, eux, respectent les consignes sanitaires depuis le début. Par contre, je veux être très clair. On veut appliquer le principe de la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé, mais pas au dépens de notre capacité à soigner nos citoyens. Alors, dans les circonstances, le report de l'échéancier de 13 jours est la meilleure des solutions parmi des choix difficiles qui s'offraient à nous. Maintenant, quelles sont les implications de cette décision-là? Je vais vous en donner quelques-unes. Moi, je suis encore plus motivé avec notre équipe de livrer la marchandise sur les changements de culture que l'on veut faire dans le réseau. Et même si on avait accepté que le personnel vacciné avec une seule dose, je vous ai communiqué les chiffres là, un petit peu avant le point de presse, on perdait plus de 14 000 personnes. Et même en acceptant certains assouplissements qu'on a vus dans les différents scénarios, on pouvait peut-être perdre 10, 12 000 personnes, dépendamment des scénarios qu'on faisait par région ou par type d'installation. Et quand on est arrivé, moi, dans la zone de 12 000 personnes, ce que ça m'a rappelé, c'est comme si on revivait le pire de la première vague, la COVID-19, dans notre réseau de santé où on avait 12 000 travailleurs absents. Et imaginez-vous, on a un réseau qui est beaucoup plus fragile qu'il y a 19 mois. Alors, force de constater que pour nos gestionnaires, avec le départ d'autant de vaccinés à court terme, de non-vaccinés à court terme, pardon, ils auraient eu beaucoup de pression d'utiliser les méthodes de gestion dont on veut se départir, que ce soit le temps supplémentaire obligatoire, le fameux arrêté 007 pour forcer les déploiements. Et c'est ça que j'ai entendu dans les derniers jours de nos discussions avec eux. Mais je veux absolument qu'on arrête d'utiliser ces méthodes-là. Pour moi, c'est hors de question. Donc, on a pris un engagement auprès des travailleurs. On entend le respecter. On veut un nouveau modèle de gestion et un changement de culture dans le réseau. Comme gestionnaire, je me dois présentement d'additionner du personnel dans notre réseau qui est à bout de souffle, pas d'en soustraire, et surtout pas à court terme. Alors, je le fais en pensant au personnel qui est en place, mais j'insiste, je le fais en pensant aux citoyens qui sont vulnérables. Quelques autres points. Le report de l'échéancier au 15 novembre, pour moi, est encore plus justifié, comme je l'ai mentionné, parce que nous venons juste d'obtenir dans les derniers jours l'appui de plusieurs ordres professionnels des travailleurs de la santé sur l'importance de la vaccination obligatoire. On le voit dans nos statistiques quotidiennes, on continue de vacciner encore, ça peut paraître surprenant, de vacciner des milliers de Québécois et des centaines de travailleurs de la santé avec une première dose encore tous les jours. Si on continue, juste vous donner un exemple, si on continue de vacciner au rythme des 50 derniers jours, soit depuis l'annonce de la commission parlementaire, au même rythme que les 50 derniers jours, ce serait plus de 7 000 travailleurs de la santé qui pourraient être vaccinés dans les 30 prochains jours. Puis moi, je pense qu'on peut faire au moins ça. Alors, je tiens absolument à prendre un moment pour remercier nos partenaires. Il y en a plusieurs, mais particulièrement le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières, l'Ordre des infirmières auxiliaires, l'Ordre des pharmaciens et plusieurs autres qui nous ont aidés et avec qui on a discuté dans les dernières semaines. Maintenant, pour la sécurité dans nos milieux de vie. Je sais que ça peut peut-être inquiéter des usagers et des travailleurs de la santé qui sont vaccinés d'avoir des employés non vaccinés dans le réseau de la santé. Ça aussi, je l'ai entendu. Mais sachez qu'on ne relâchera pas la sécurité dans nos milieux de soins, dans nos milieux de vie, autant pour les employés que pour les usagers. Et je rappellerai qu'on va maintenir l'obligation des visiteurs et des proches aidants d'avoir un passeport vaccinal lorsqu'ils entreront dans les hôpitaux, les CHSLD, les RPA et nos ressources intermédiaires. En conclusion, je le rappelle, la vaccination obligatoire pour les travailleurs du réseau, c'est la bonne décision. Cependant, on est réaliste et on prend la pleine mesure de la situation actuelle et de nos engagements, comme je l'ai mentionné, envers nos travailleurs de la santé. Il est primordial pour nous de protéger notre réseau et nos différentes clientèles. Se donner un délai de 30 jours est donc raisonnable et approprié dans les circonstances. Mais je veux vous assurer que nous allons surveiller l'évolution et la situation de très près. Et en terminant, j'ai un message pour les travailleurs de la santé qui ne sont pas encore vaccinés. Nous vous tendons la main et nous espérons sincèrement que vous allez la saisir. S'il vous plaît, faites-le d'abord pour vous, pour vos proches. Sinon, faites-le pour vos collègues qui ont besoin de vous. On a tous le droit de changer d'idée quand on le fait pour les bonnes raisons. Et à ceux qui l'ont fait ou qui ont déjà pris la décision de prendre leur rendez-vous, je vous dis le plus sincère des merci. Et soyez fiers de l'avoir fait. Merci beaucoup. And I'll say a few words in English.
Oui, alors c'était le ministre Christian Dubé. On est tous stupéfaits de cette annonce. Denis Couture avec moi, journaliste à Cogeco. On ne s'attendait pas à ça. Denis, on a tous une réaction vraiment de stupéfaction en studio.
Oui, et d'ailleurs, le ministre l'a dit lui-même, ce n'est plus le 15 octobre, mais le 15 novembre, mais la décision a été prise hier soir parce que tout portait à croire jusqu'à ce matin là, que ça allait être maintenu au 15 octobre. Alors, on veut se donner une chance pour mettre moins de pression sur le réseau. Donc, l'échéancier est retardé d'un mois, de 30 jours. Qu'est-ce que ça va permettre de faire, peut-être, c'est d'augmenter le personnel hospitalier qui vont aller se faire vacciner. Là, il y en a 14 000 de moins qui auraient été au travail avec la date du 15 octobre. Et le ministre dit qu'avec la vaccination, le rythme de vaccination actuel, on pourrait peut-être aller en chercher au moins 7 000, donc la moitié, d'ici le 15 novembre. Il a lancé un appel au personnel hospitalier. Allez vous faire vacciner. On vous tend la main, c'est ce qu'il a dit. Et il dit que c'est une décision qui est raisonnable et appropriée et on veut donner une dernière chance.
Et il a ajouté, Denis, qu'on met fin aux primes COVID.
Oui.
Il n'y aura pas de 15 000 $ tant et aussi longtemps que les employés ne seront pas vaccinés. Vos premières réactions, le texto, là, vous êtes furieux, vous êtes déçus. de la réaction du ministre Dubé, d'autant plus qu'à peu près personne ne l'a vu venir. Il y a des informations ce matin qui laissaient peut-être entendre qu'il y aura un certain accommodement vaccinal. C'est confirmé. Donc, tu l'as dit, Denis, là, on part d'un délai là, du 15 octobre au 15 novembre. Il y a plusieurs auditeurs qui disent, ben voyons donc, c'est les syndicats qui ont gagné, c'est les infirmières qui ont gagné, inhalothérapeutes, tous ceux, celles qui ne sont pas vaccinés puis qui devaient être vaccinés. Ça envoie un drôle de message. Hein?
Oui, le ministre a dit, ben, je suis allé sur le terrain durant les derniers jours, j'ai rencontré beaucoup de monde et force est de constater que cette décision a été prise en partie avec cette visite là sur le territoire médical, si j'ose le dire ainsi. Et il dit que la pression était trop forte pour les employés et qu'on risquait de foncer dans un mur. C'est l'expression qu'il a utilisée. Les risques sont trop élevés. Et les scénarios étaient trop lourds de conséquences. La décision, elle peut paraître frustrante, il l'a avoué, Christian Dubé, pour le personnel qui est déjà vacciné, pour les patients aussi. Il a tenté de rassurer en disant que les gens qui ne sont pas vaccinés seront testés au moins 3 fois par semaine, que les gens qui vont aller dans les centres hospitaliers ou les CHSLD devront encore être doublement vacciné.
Voilà.
Il a tenté finalement de rassurer un peu la population en ce qui concerne ce délai de 30 jours.
Effectivement, il y a des auditeurs qui nous écrivent, ils n'avaient pas le choix, c'est un geste courageux, une décision qui tombe sous le sens pour d'autres. Mais une majorité d'entre vous, là, vous exprimez votre déception au gouvernement qui manque de crédibilité. Et moi, ce que je me demande, Denis, est-ce que le gouvernement avait bien évalué la situation avant de prendre cette décision d'imposer la vaccination obligatoire chez les travailleurs du réseau de la santé? Et je comprends que le ministre nous a expliqué qu'ils ont étudié toutes sortes de scénarios, mais a-t-on bien évalué le risque d'une telle décision? La question se pose aujourd'hui.
En tout cas, le ministre a vraiment affirmé que c'est dans les derniers jours là, qu'il a vu que la pression serait trop forte. Et d'ailleurs, on a un bilan quotidien qui vient de paraître et qui nous dit qu'il y a encore 512 personnes aujourd'hui au Québec qui ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Et hier, il y a eu 7 nouveaux décès aussi. Alors, 298 personnes sont toujours hospitalisées.
Denis. Merci, Denis. On va aller aux questions.
Hier, vous étiez hyper clair. C'est le 15. C'est obligatoire pour tout le monde, tout ça. Qu'est-ce qui a été le point de bascule que je comprends très tard hier?
En fait, écoutez, on a toujours pensé, surtout quand on a vu les positions des ordres professionnels au début de la semaine, que ça pourrait avoir un impact plus important sur la vaccination. Et je peux vous dire que plus on fait ça, c'est la première chose. Puis je pense que Dr. O'Patterney pourrait vous en parler, mais plus on faisait des analyses que moi j'appelle granulaires, puis on en a fait là, je peux vous dire qu'on en a fait depuis des semaines. Mais particulièrement dans les derniers jours, lorsqu'on rend compte, oui, des fois on baissait de 300-400 personnes par jour là, qui se faisaient vacciner. Moi, je pense que ce n'était pas assez. On savait qu'il en restait 14 000. Mais ce qui nous a frappé, surtout dans les derniers jours, puis j'aimerais que Lucie vous donne des exemples, c'est que c'est beau de parler de 14 000, puis on dit 14 000 personnes sur 330 000 personnes. Quelqu'un peut dire, dans le fond, on va faire un petit stress test de quelques jours, puis on va passer à travers. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'on est allé à tellement de détails qu'on arrivait dans une RPA ou dans une RI où il y avait 3 personnes sur 6 qui n'étaient pas vaccinées. Ça veut dire qu'on fermait, là. Pas compliqué, là. On fermait la ressource intermédiaire. On avait des endroits, parce qu'on pense toujours à Montréal, mais j'aimerais ça que Lucie vous donne quelques exemples. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on se faisait confirmer qu'on était rendu dans, moi je vais l'appeler le moment difficile, là, parce qu'on le savait dans les derniers jours. On poussait beaucoup parce qu'on voulait que les gens se fassent vacciner. Mais cette analyse-là granulaire qui se confirmait dans les derniers jours, bien, en fait, et peut-être Lucie, vous pouvez donner peut-être quelques exemples.
Alors, les personnes non vaccinées ne sont pas nécessairement saupoudrées de façon égale partout. Comme dit le ministre, il y avait des endroits, par exemple, dans un laboratoire où il y avait 4 sur 6 personnes, techniciens laboratoires, qui sont pas vaccinés. Mais si on regarde globalement quelques chiffres sur un réseau déjà fragilisé, où tous les lits sont pas nécessairement ouverts, dans les centres hospitaliers, par exemple, ça serait à peu près 600 lits de courte durée supplémentaires fermés au Québec, 35 salles d'opération fermées. Et ça, c'est sur une base où déjà on a à peu près 80 salles d'op fermées sur une capacité totale de 470. Si on regarde aussi également la DPJ, santé mentale, des réductions de services importantes, également 35 % des CHSLD avec des réductions de services importantes, quasi la moitié de régions notées que les soins à domicile allaient avoir des capacités réduites. Alors, ces chiffres-là, le ministre trouvait, puis on l'appuie évidemment, étaient trop un grand risque à prendre pour ne pas se donner un 30 jours supplémentaires.
J'ai une. Merci beaucoup, Lucie. Puis je vais insister sur un deuxième point, si vous permettez. J'ai eu dans les derniers jours plusieurs discussions avec les PDG. Je vous l'ai déjà dit qu'on est, très proches, puis on se parle beaucoup. Hier, ce qui m'a frappé, puis c'est pour ça que je veux revenir sur l'engagement qu'on a pris envers notre personnel. Si on veut changer les méthodes de gestion, changer la culture, puis donner le goût aux gens qui sont là de rester et de revenir, bien, je ne peux pas accepter qu'on me dise, bien, écoutez, si on fait le plan avec 14 000 personnes, je suis obligé de continuer de faire du 007 puis du temps supplémentaire obligatoire. Et moi, c'est ça qui m'a donné le coup de gaz hier soir. Quand on en a discuté avec le premier ministre, j'ai dit, je ne peux pas demander au PDG de trouver des solutions parce qu'on enlève 14 000 personnes, puis en même temps dire au réseau, écoutez, faites-nous confiance, on va changer les conditions. Alors, c'est un petit peu ça qui s'est finalisé hier.
J'entends déjà ou je lis déjà sur les réseaux sociaux qu'avec cette décision-là, vous donnez raison aux anti-vax. Vous les faites gagner. Vous leur dites quoi?
Vous voulez vraiment que je commente là-dessus? Ce que je dirais, je pense que de façon très constructive, là, puis je suis là, on a quand même, depuis le 28 août, on avait un déficit de vaccination de 45 000 personnes le 28 août. On a un déficit aujourd'hui, là, si j'inclus ceux qui ont une première dose, un déficit de 14 000. Quand même toute une progression. Je vous fais une référence, puis ça fait partie de nos considérations. M. Biden a annoncé que la vaccination obligatoire se ferait à partir du 24 novembre. Je ne me souviens pas c'est quoi la date. À un moment donné, il faut regarder c'est quoi qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut protéger notre réseau, protéger notre employé ou respecter une date qu'on a fixée le 28 août? Moi, quand je suis arrivé là, à prendre tous les pour et les contre qu'on vient de vous présenter, je pense qu'on a pris la bonne décision. Puis je suis confiant qu'il y a encore beaucoup de personnes dans le réseau qui ne sont pas vaccinées, qui vont prendre cette main tendue-là qu'on leur donne. Puis c'est ça que je suis confiant, moi.
Merci. Prochaine étape.
Oui, Ariane Lacourcière de la Presse. Je me demandais, docteur O'Patterny, peut-être, est-ce qu'il y a certains secteurs dans vos analyses granulaires, là, justement, vous en avez nommé quelques-uns, les salles d'opération, mais lesquels ressortaient le plus fort comme étant très à risque là, si on maintenait le 15 octobre?
C'est difficile à répondre parce que chaque région avait des réalités différentes. Ça dépend à la base, par exemple, en Abitibi, où l'enjeu de main-d'œuvre déjà était fragilisé. C'était très intéressant à voir. J'ai déjà mentionné un laboratoire à une place. À une autre place, c'était l'unité de dialyse. Alors, je ne peux pas vous dire globalement s'il y avait des endroits particulièrement, parce que c'était vraiment différent ou c'est différent d'une région à l'autre. Mais peu importe où ces individus-là se trouvent, quand on fait un plan, mais on va toujours sélectionner et choisir de préserver les mêmes secteurs. Alors, peu importe où ils se trouvent, mais par la suite, il faut faire des décisions pour préserver certains secteurs qui sont pareils partout.
En fait, Lucie, si vous permettez, je pense que dans certains cas, c'était par région, l'enjeu était. Souvent, c'était par service. Moi, je vais vous dire, ce qui nous a beaucoup fait réfléchir, c'est quand on a commencé à regarder nos CHSLD. Puis encore une fois, dans les CHSLD privés, autant que publics, vous le savez, comment on a souffert dans la première vague. Mm-hmm. Moi, je ne pouvais pas me retrouver à me regarder dans le miroir demain matin puis d'avoir pris ce genre de risque-là dans les CHSLD. Alors, c'est pour ça que, étant donné maintenant qu'on contrôle bien la quatrième vague, qu'il y a peu ou pas d'éclosion dans nos CHSLD, bien, je pense que de faire de la diminution de service alors qu'on peut continuer de faire la progression, je pense que ça devenait évident.
Puis qu'est-ce qui vous laisse croire que ça va être différent dans un mois, qu'on va être ailleurs, puis que là, ça va être correct à ce moment-là?
Ça, j'aime ça, cette question-là. C'est ça que je vais regarder dans les 30 prochains jours. Moi, merci pour la question, puis c'est rare, je dis ça, mais ça, pour moi, ce qui nous a guidés, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on donne, je vous le dis là, est-ce qu'on donne 3 jours, est-ce qu'on donne 15 jours, est-ce qu'on donne... Là, je vous ai perdu, ah, vous êtes rendu là. Quand on discutait ça dans les derniers jours, puis qu'on a pris, je pense, la bonne décision de mettre 30 jours, on s'est dit, les critères qui nous font décider ça aujourd'hui devraient être les mêmes critères qu'on va réévaluer dans 30 jours. Parce que, comme je vous dis, je pense qu'il faut être réaliste. C'est quand même tout un bond d'être passé de 91 à 96 %. Je vous dis, on a 90 % de la population du Québec qui est vaccinée première dose. Où est-ce qu'on va être rendu avec nos CHSLD? Dans un mois, là, c'est derrière nous, ça. Alors, est-ce qu'on serait capable de prendre une décision différente dans 30 jours à la lumière des nouvelles informations? Moi, je pense que c'est ça. On a maintenant la capacité d'avoir l'information qu'on a là. Alors, je vous dirais, on va avancer pendant ce temps-là. Moi, ce que je souhaite, puis j'ai hâte, là, je l'ai dit hier quand j'étais en Outaouais, la semaine prochaine, on va annoncer nos mesures sur comment on va travailler avec nos agences externes à l'avenir. Ça veut dire comment on va donner des horaires favorables à nos employés. Ça, la semaine prochaine, ça va être un grand signal qu'on va envoyer à nos gens. Plus de gens vont revenir. Où est-ce qu'on va être dans l'engagement des nouvelles personnes dans 30 jours? Ça peut faire une grosse différence aussi. Alors, je vous dirais, on va réévaluer ça. Nous, on va le faire tous les jours. Là. Mais dans 30 jours, vous me reposerez la question, puis on verra ce qu'on est rendu.
Merci. Prochain média.
Marie-Ève Cousineau, du Devoir. Bon, vous l'avez mentionné, vous étiez content de la dernière question. Qu'est-ce que vous allez faire dans le prochain mois, justement, pour convaincre les employés non vaccinés de le faire, puis aussi régler le problème de pénurie de main-d'œuvre, sachant qu'il y a la vaccination de la grippe qui commence, il y a la vaccination peut-être pour les enfants. Donc, comment vous allez pouvoir régler ce problème-là d'ici dans le prochain mois?
Mais c'est sûr que je ne vous cacherai pas que je pense que moi, j'ai vraiment un objectif de rétention avant d'engager. Quand je me promène, là, ce que j'entends beaucoup des différents gestionnaires sur place, c'est qu'ils ont une crainte que si le réseau continue d'être aussi fragile, il y a encore d'autres gens qui vont partir. Fait que moi, ma première préoccupation, c'est la rétention. Et c'est pour ça que ce que j'aimerais, c'est que les gens qui hésitent encore à se faire vacciner se rendent compte de l'impact qu'ils peuvent avoir sur leurs collègues. Puis je dis ça, là, non seulement ils peuvent les aider, mais je pense qu'il faut qu'ils soient conscients qu'ils vont perdre leurs primes. Ils vont perdre leurs avantages. Quand ils sont sans solde, là, ils baissent sur les listes de rappel. Il y a plusieurs conséquences. Donc, premièrement, je pense qu'on peut travailler sur la rétention. Maintenant, sur l'engagement, d'aller chercher d'autres, je viens de le dire, la question de l'utilisation des agences, pour moi, c'est majeur. On va déposer ça la semaine prochaine. L'autre point qui m'apparaît important, puis je reviens souvent sur le TSO. Vous avez vu les articles, là, vous êtes proche de ça, là, de tout ce qui se passe sur le TSO avec la FIC. C'est clair que dans le prochain mois, moi, je veux montrer comment on est en train d'attaquer le temps supplémentaire obligatoire. Ça, pour moi, c'est majeur. Mais si on avait pris la décision de laisser partir 14 000 personnes, oubliez ça, là, j'aurais jamais été capable de le faire. Alors, je ne veux pas avoir deux discours, je veux avoir un discours. Je veux modifier le réseau, recueillir moins aux agences assez rapidement. Puis deuxièmement, prouver qu'on peut travailler sans le temps supplémentaire obligatoire, puis d'avoir une progression le plus rapidement possible.
Quand
Alors voilà, vous venez d'entendre le ministre de la Santé, Christian Dubé. Stupéfaction de notre côté parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le gouvernement ouvre la porte au report de cette date butoir qui était prévue pour le 15 octobre. Donc, les employés du réseau non vaccinés auront jusqu'au 15 novembre pour se faire vacciner. Vos réactions vont dans les deux directions. C'est très polarisé. Vous êtes nombreux à nous écrire votre déception, gouvernement qui manque de crédibilité, incapable de se tenir debout. Il y a aussi de nombreux auditeurs comme Sonia qui nous écrit au contraire, le ministre Dubé et notre gouvernement ont réagi avec écoute et intelligence. C'est une décision qui est tout à fait justifiable compte tenu des impacts qui étaient anticipés dans le réseau.
Oui. Et le ministre, d'ailleurs, avec les questions des journalistes, nous en a dit un petit peu plus sur les impacts. 14 000 personnes qui ne sont pas vaccinées sur 330 000, il dit que ça peut paraître peu, mais ça a des conséquences énormes parce qu'ils ne sont pas distribués de la même manière partout. Dans certaines régions, il y a davantage de non-vaccinés, dans des RPA, dans des ressources intermédiaires, dans des CHSLD. Et il dit qu'il y aurait eu 600 lits courte durée qui auraient pu fermer avec ce nombre de personnes
qui ne sont
pas,
Denis,
sur le terrain.
C'est énorme.
C'est énorme. 35 salles d'opération aussi fermées sur 470. Alors, il dit que c'est trop de risques. Et il a parlé aussi, Christian Dubé, du temps supplémentaire obligatoire. Il y en aurait eu davantage. Et là, ce que craint le ministre, c'est l'effet domino. Il y a déjà beaucoup d'infirmières, de personnel qui a décidé de quitter le réseau hospitalier parce que c'était trop difficile, avec davantage de temps supplémentaire obligatoire. Le ministre dit que la tension était trop forte et la date de l'annonce de vaccination obligatoire, c'était le 28 août. À ce moment-là, il y avait 45 000 personnes qui n'étaient pas adéquatement vaccinées. Là, on est à 14 000 aujourd'hui. C'est encore trop peu et il a décidé de se donner 30 jours de plus pour augmenter le taux de vaccination parmi les personnes.
Et la question, c'est qu'est-ce qui va arriver après le 15 novembre? Hein? Qu'arrivera-t-il d'ici le 15 novembre? Est-ce que les employés non vaccinés
seront au rendez-vous,
vont aller se faire vacciner? Peut-être préciser, comme le ministre de la Santé a pris soin de le dire ce matin, il n'y aura aucune prime COVID,
non.
Pas de 15 000 $ pas de prime incitative qui sera donnée aux employés tant aussi longtemps qu'ils demeureront sur leur position.
Et une baisse sur la liste de rappel aussi et une exigence pour les travailleurs non vaccinés adéquatement de se faire tester 3 fois par semaine.
Voilà. Alors, vos réactions vont vraiment dans deux directions opposées, complètement opposées. Il y a Jean-Marc qui nous écrit, félicitations au gouvernement d'être capable d'être à l'écoute et surtout de réagir et d'expliquer sa décision, mais vous êtes aussi nombreux à nous dire non, ça ne fait aucun sens. C'est sûr que le ministre de la Santé, lui, il a pris la parole en disant c'est une décision difficile à prendre, mais je n'ai d'autre choix que de le faire parce que je dois protéger le réseau de la santé, protéger les Québécois. D'ailleurs, Denis, aujourd'hui, il y a probablement énormément de soignants, travailleurs du réseau de la santé, des patients qui doivent être soulagés en entendant une nouvelle comme celle-là.
Oui, et le ministre a dit qu'il y en a des gens dans le système de santé qui se font vacciner actuellement et avec le rythme de vaccination que l'on a, on peut en récupérer la moitié des 14 000, à peu près 7 000. Dans le bilan quotidien d'aujourd'hui, on voit qu'il y a 9 330 doses du vaccin qui ont été administrées durant la journée d'hier. Et parmi ces 9 330-là, il y en a qui se sont fait vacciner pour une première fois. Donc, le ministre souhaite que les gens soient au rendez-vous durant les 30 prochains jours.
C'est son autre pari. 514-790-9850. On ouvre les lignes. Exprimez-vous votre réaction après cette décision qui était très attendue. 514-790-9850 ou 1-866-790-9850. Courte pause parce qu'il faut y aller et je vous écoute. Je prends vos appels tout de suite après.